I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est Nos Ciné pour un format extra. D'une part parce que j'ai en face de moi Stéphane Moïsakis et David Honora. Salut. Et salut. D'autre part, parce qu'on va parler de Brian De Palma, et à partir de maintenant, j'arrête les rythmes parce que c'est extrêmement pénible. C'est Nos Ciné Extra Ball consacré aux rééditions de Phantom of the Paradise et L'Esprit de Cain. Et c'est bien.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Et très arbitrairement, commençons par Phantom of the Paradise. Vous êtes d'accord?
Bah oui, c'est le premier des deux.
Si vous ne l'êtes pas, de toute façon, ce sera comme ça. Cru de 1974, comédie musicale rock effrapée que, messieurs, je vous laisse raconter au hasard, Stéphane.
Phantom of Paradise, s'il fallait resituer, c'est une relecture du Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux. Version comédie musicale, alors bien avant les trucs de Broadway, de, je ne sais plus comment il s'appelle, là, le mec qui a fait Phantom of the Opera, là. À Broadway, non, ça vous dit rien?
Non,
on n'a pas le nom, mais c'est pas grave. En fait, Joel Schumacher a fait une adaptation dans les années 2000, ouais. 90 ou 2000, je sais plus. Ça va tout passe tellement vite. Mais donc comédie musicale rock hippie des années 70. Et moi, je dirais que c'est un peu, pour beaucoup de gens, le premier film qu'ils ont vraiment découvert. En tout cas, les grands fans de Palma, c'est le premier film qu'ils ont découvert où ils ont vraiment découvert le réalisateur, c'est-à-dire tel que ce qu'il est capable de donner, en fait, parce que même quand on regardait Sœur de sang, par exemple, ça pouvait être une relecture hitchcockienne un peu plus vicieuse qu'un film de Hitchcock, et on se disait, voilà, ce qu'il a dans le ventre, c'est Phantom of the Paradise, quoi. Quelque part, je dirais que c'est un peu avec du recul que je dis ça, mais c'est un film de proto-geek, en fait, parce que c'est comment prendre un thème ou une œuvre qu'on aime, en fait, et qu'on la revoit à sa manière complètement, quoi, et qu'on la fait complètement sienne. Et c'est vraiment ça. Donc il y a d'un côté l'aspect totalement baroque de la mise en scène, l'aspect tragicomique, en fait, de la mise en scène de Palma. Il y a évidemment la musique de Paul Williams qui est moi je trouve une des plus belles BO de l'histoire du cinéma. Depuis que je suis né, en tout cas. Voilà.
Et en 1985.
Non. Ouais. Ça, c'est moi. Je suis sûr que je suis même plus vieux que toi, là. Et donc, voilà, ça ressort là chez Carlotta, c'est pour ça qu'on en parle, en fait, dans une très belle édition. Donc foncez, moi, je passe la main à mon ami David, qui est le fan aussi de Palma.
Oui, alors pour l'édition, pour le coup, je l'ai pas vu, je l'ai pas eu entre les mains, donc je sais pas ce que ça apporte.
Ça reprend tous les bonus, en fait, de l'édition spéciale qui était sortie chez Opening, je crois, il y a une dizaine d'années. Ouais. Et ça rajoute un gros bonus, une conversation entre Guillermo del Toro et Paul Williams. Donc, c'est pour ça que je dis proto-geek aussi, c'est qu'il y a,
Et un karaoké, me semble-t-il.
Alors ça, je ne sais pas. Je n'ai pas appuyé sur ce bouton, quoi.
Et puis ça fait partie des éditions Carlotta Super Luxe avec le bouquin, le coffret.
Ouais, y a un livret,
On a déjà parlé. Le premier de cette édition, c'était justement déjà un film de Brian De Palma, Body Double, dont je crois on avait parlé ici. Ouais. Et puis il y a eu quelques autres films. Qui bénéficient de ce traitement, qui en font vraiment un bel objet que je n'ai pas encore vu entre mes mains. Après, clairement, c'est un film extrêmement baroque qui tranche avec le début du cinéma de Palma. En fait, il a eu un début dans un cinéma entre l'expérimental et le cinéma politique, un cinéma très new-yorkais. Et puis, il a eu commencé à avoir un premier succès commercial juste avant avec, avec Sœur de Sang. Et en revanche, pour Phantom of the Paradise, la réception était plus mitigée. Ça dépend des endroits. Notamment, en revanche, en France, je crois que le film a eu, à sa sortie, beaucoup de succès, a été exploité très longtemps.
C'est un peu comme le Rocky Horror Picture Show, en fait.
Sachant qu'il faut, savoir que c'est un film qui est sorti 3 ou 4 ans, je crois, avant le Rocky Horror Picture Show, et qui esthétiquement déjà le présage quelque chose qui va marquer vraiment cette.
C'était un ou deux ans.
Enfin, en tout cas, c'est avant. Et puis c'est un film donc effectivement qui revisite le Phantom of the Opera, mais aussi pas mal d'autres thèmes comme évidemment le thème de Faust. Et puis aussi un cinéma, je dirais qu'il y a quelques emprunts à Hitchcock aussi, même de manière un peu parodique, cynique et détournée. La scène de la douche qui est avec le couteau remplacé par une ventouse.
Quand on dit proto-geek, entre guillemets, quand je dis ça, il y a une espèce de logique postmoderne aussi, encore une fois, avant l'heure. Hein, ce qu'un mec comme Tarantino pourrait faire 20 ans après, De Palma le faisait complètement, et en réutilisant complètement aussi tous ses codes de mise en scène, c'est-à-dire le split screen. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, il y a la focale coupée,
L'utilisation même méta de l'image dans l'image avec beaucoup d'écrans de surveillance, de plans composés avec des cadres à l'intérieur du cadre, etc. Il y a aussi on peut retrouver aussi quelque chose qui évoque les chaussons rouges de Michael Powell, qui est aussi un cinéaste qui a beaucoup compté pour De Palma, dont on parle beaucoup moins souvent quand on parle de lui. On parle beaucoup plus d'Hitchcock, mais y a un autre film de Michael Powell qui est Peeping Tom, qui est hyper important pour De Palma, et en particulier dans ses premiers films. Peeping Tom, pour raconter un petit peu l'histoire, c'est un film de serial killer avec un personnage qui tue ses victimes avec sa caméra.
En les filmant, oui.
En les filmant, et avec une forme de caméra qui a
une... La caméra est une arme, en fait.
Ouais, voilà. Donc, ne serait-ce que la thématique de ce film, c'est important dans la logique filmique de Brian De Palma. Et après, c'est un film qui est extrêmement riche et exubérant, qui je trouve à la fois garde un aspect très kitsch qu'on peut presque trouver de mauvais goût, et en même temps qui, enfin, je le trouve aujourd'hui d'une beauté, enfin en fait à installer un style qui compte encore énormément aujourd'hui.
Le mauvais goût, en même temps, chez De Palma, c'est un truc qui est quand même très ancré. C'est comme chez Verhoeven, on peut pas enlever que ça fait partie du cinéaste. Et en même temps, d'un autre côté, c'est quelqu'un qui joue tellement sur le fil du rasoir dans toute sa filmographie que c'est un miracle, en fait, qu'il soit quasiment jamais tombé. Et dans le fait de... Quand tu dis que c'est un film moi, je dirais que c'est un film qui est marqué par son époque, Phantom of the Opera, mais c'est un film qui n'a pas vraiment vieilli, à mon sens, à part si on accepte tout simplement que c'est un film qui a été fait dans les années 70. Donc du coup, effectivement, c'est extrêmement rigoureux. Tous les effets qu'il tente fonctionnent, toute la narration... Tu parlais de voilà, y a, par exemple, il y a ce moment où il y a des auditions chez Swan, où mais pas seulement. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est vraiment autour de quand ils cherchent le nouveau son, voilà. Et en fait, elle est fondue au noir, et c'est tout simplement une manière de faire passer le temps dans le même plan, en fait, dans un plan séquence.
Mais au-delà de ça, les mythes auxquels l'histoire emprunte restent quand même très très modernes.
C'est la bonne base. Hein, ouais. C'est clair que c'est une base, en fait, sur laquelle il peut revendiquer son style et son cinéma, en fait. Je pense que c'est le meilleur film de De Palma, c'est ce qu'il a toujours fait aussi, quelque part. C'est pas forcément adapté à des mythes connus, mais on va dire que quand il réadapte Hitchcock ou ce genre de choses, c'est quand même des canevas éprouvés. En fait, on sait qu'il est, on sait que ça fonctionne. Lui, il va prendre le truc et aller plus loin, en fait. Donc,
en l'occurrence, le mythe de Faust, qui consiste en fait à vendre son âme au diable, c'est un thème qui est hyper important, même dans la biographie ou dans l'œuvre de De Palma, parce qu'en fait, il a un peu passé son temps à faire ça. Et déjà, dans ce film-là, en fait, on peut à chaque fois avoir une relecture de moments importants de sa carrière, en renvoyant à Phantom of the Paradise, parce que c'est un cinéaste qui à la fois a prouvé qu'il était capable de faire des grands films de studio et en même temps de les pervertir de l'intérieur. Pour moi, c'est un film que tous les jeunes cinéastes indépendants qui se font recruter par Marvel ou Hollywood devraient voir avant de commencer leur tournage.
Parce que
c'est un comment dire un un didacticiel de subversion, quoi.
Enfin, mais ce que tu dis aussi, là où c'est vrai aussi, c'est que l'idée de se remettre en, enfin, se composer avec la nature commerciale du cinéma, c'est ce qu'il a commencé à faire effectivement avec Sort de sang, à une époque où il voyait justement que ses films ne marchaient pas, et il s'est dit bon, bah, moi je veux faire des films qui marchent, je veux faire des films qui sont vus, et du coup il est allé comment dire, alors j'allais faire une blague avec la finesse qu'on lui connaît, mais en fait il est quand même très fin comme cinéaste, justement, c'est-à-dire que tout ce que les gens lui reprochent, l'aspect entre guillemets, je mets bien les guillemets parce que c'est le terme qui a été utilisé contre son cinéma, pornographique, que la presse américaine lui a reproché, ça a été repris un peu partout dans la presse cinéma dans le monde, tout ça en fait c'est à la base, ça découle de l'idée en fait de racoler un peu le public, mais de le faire à sa manière, c'est-à-dire de faire du cinéma avec ça, quoi. Et voilà, donc effectivement, Phantom of Paradise, aujourd'hui, on en parle encore 40 ans après comme l'un des très très grands films de Palma, parce que je pense que ça porte sa marque complètement, et que malgré le fait qu'il n'ait pas forcément marché à l'époque, bah, le film juste traverse le temps, quoi.
Une dernière petite chose, c'est aussi le film qui a révélé l'actrice Jessica Harper, qui jouait dans très peu de films, mais dans un autre film culte de l'époque, qui est
Suspiria. Elle a fait une très bonne carrière entre 1974 et 1976. Quoi.
C'est l'actrice principale de Suspiria de Dario Argento, et voilà, dans ces deux films, elle est extraordinaire.
Également réédité, Le Mal-aimé, l'esprit de Cain, sorti en 92, film dans lequel on peut voir le génial John Lithgow dans le rôle d'un pédopsychopathe, en fait, pour le faire en résumé. Votre avis sur celui-là, Mal-aimé par vous aussi, ou vous lui trouvez... quand même des qualités, David.
Alors moi c'est un film. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans nos ciné. J'ai un rapport à De Palma qui fait que c'est pour moi difficile de pas aimer un film de lui. Donc voilà, déjà c'était un film que de base j'aimais. Qui dans cette réédition a une petite particularité, c'est que c'est la première fois qu'il est présenté dans un format director's cut, et c'est un director's cut assez particulier parce que le remontage n'a pas été fait par De Palma, mais par un fan. C'est un montage qui date de 2012, par un fan qui a lu
le
script d'origine et les entretiens de Palma, dans lequel il a toujours expliqué qu'il avait des regrets sur le montage du film. Et donc il est parti, ce fan, qui est un monteur hollandais, qui est parti du matériel de base, donc pas aucune scène coupée, mais en partant du film, il a changé l'ordre du récit. Et en fait, le récit s'ouvrait sur ce médecin, sur le pédopsychiatre en congé, qui, enfin, en fait, qui a pris un congé long pour s'occuper de sa fille, et qui en fait s'avère être un psychopathe ou un malade. Sachant que c'est assez intéressant, on en a parlé récemment, il a la même condition que le personnage de Split. En fait,
t'as quand même deux traitements complètement différents, quoi.
Et ouais, voilà, c'est traité de manière très, très différente. Et donc, dans le film tel qu'il est sorti au cinéma, on commence avec l'histoire de ce personnage. Et du coup, on a du mal à comprendre la relation qu'il a avec sa femme.
C'est-à-dire que c'est ça, il y a deux histoires qui se joignent en fait à la fin. C'est l'histoire de ce pédopsychiatre et l'histoire de sa femme. Et sa femme, en fait, en apparence, ils sont censés avoir une vie parfaite. Et elle le trompe avec une ancienne, un ex, en fait, qu'elle retrouve, qui revient dans sa vie. Et lui, en fait, mène des expérimentations sur notamment leur enfant et sur d'autres enfants qui aimeraient. Voilà. Et ça, c'est lié à son père, qui est un pédopsychiatre très, très connu, je crois, en Norvège ou en Suède, je ne sais plus. Et l'idée, c'était effectivement, comme tu dis, dans le premier cut, c'était son histoire à lui qui est montrée en premier, puis son histoire à elle. Pour, je pense à l'époque, pour mettre en avant l'aspect complètement thriller de De Palma, parce que c'était vraiment clairement vendu sur « Attention, De Palma revient au thriller », X années après, c'était Body Double, donc le thriller hitchcockien, je me rappelle l'affiche, c'était Dérangé, Dément, Dérangé, De Palma, voilà, donc il y avait toute une logique, en fait,
Il faut préciser que c'est le film qui vient juste après Le Bûcher des Vanités, qui a été à la fois un échec commercial
et outrage aussi. Parce qu'en fait, De Palma a eu en 87 un gros gros succès avec Les Incorruptibles, où on pourrait croire qu'il s'est fondu dans le moule des studios en fait pour faire un film de studio, mais ça reste quand même un film de De Palma. Je crois que c'est assez évident quand on le regarde, quoi. Y compris dans sa façon de régurgiter encore une fois le cinéma des autres et de le faire sien, quoi, comme Le Cuirassé Potemkin, par exemple, dans une scène spécifique. Mais bon, le truc c'est que voilà, là l'idée c'était bon, bah je reviens aux sources de ce que je sais faire. un petit film, un petit thriller. Et donc, l'idée, c'était effectivement de reprendre le scénar et de comment dire, enfin, il avait retouché son scénar en post-prod au montage pour intervertir les deux points de vue, quoi. Et donc, ce montage remet les choses en l'ordre. Mais le problème, alors voilà, moi je sais pas ce que t'en penses, je sais pas si t'as vu ce montage du coup, oui. Voilà, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, à part le fait que ce que tu disais, le génial John Lithgow, qui effectivement est un très grand acteur, mais alors qui est là, qui met complètement en roue libre. Donc c'est à la limite de la clownerie, hein, quand il fait ses multiples personnages. Et disons que l'idée de ce nouveau montage, c'est comme on introduit doucement l'histoire d'amour plutôt que son histoire à lui, on a plus le temps de le voir fonctionner comme un personnage, normal qui vrille, plutôt que un clown en fait qui se révèle dès le début, quoi.
Mais en même temps, on le voit finalement assez peu dans le premier segment du film. En fait, dans le remontage, le film au final ressemble plus à ce qui se passe dans Pulsion, c'est-à-dire qu'on a un premier segment très long sur l'histoire de l'adultère, et du coup. Alors, surtout quand on le regarde aujourd'hui, un des problèmes de ce montage, c'est que du coup, il y a un traitement à la fois visuel qui ressemble beaucoup au soap, un peu type Feu de l'amour des années 80. Et du coup, on a l'impression d'être vraiment dans une histoire comme ça au premier degré pendant 20-30 minutes. Et après, au bout d'un moment, l'histoire commence à vriller de manière très violente avec une scène de rêve où elle se fait empaler. Et en fait, à partir de ce moment-là, le film bascule dans du pur thriller à la De Palma. Mais pour moi, on comprend mieux le rapport psychologique et pourquoi, comment la femme a ce sentiment particulier d'être elle-même en porte-à-faux par rapport à son mari, alors que quand on est directement dans la compréhension que son mari est quelqu'un de dangereux, ça pose problème.
Alors, moi j'ai jamais aimé l'esprit de 15, j'ai jamais aimé ça quand j'ai vu, enfin je l'ai vu en salle à l'époque, j'étais très très déçu. Il faut quand même dire qu'il arrive entre Les Bûchers et les Vanités, qui est un très grand film pour moi, et L'Impasse, qui est un très grand film pour moi, et donc il y a ce film au milieu qui est le plus raté de tous ces thrillers, je pense, en tout cas. Je ne vais pas parler de passion ou ce genre de choses, mais vraiment de cette époque-là. Toi, tu préfères quelle version du coup? Parce que même en revoyant le film dans cette version-là, j'ai du mal à oublier en fait tous les trucs qui me posaient problème à l'époque.
Moi, je préfère effectivement la nouvelle version, en partie pour la raison que je viens d'expliquer. Il y a une autre raison qui fait que je comprends qu'on puisse moins aimer ce film dans la filmo de De Palma, surtout quand tu cites les autres, c'est que c'est le premier film qui commence à rentrer vraiment dans l'ère totalement méta de De Palma, c'est-à-dire que on a parlé avec Phantom of the Paradise et avec les autres films du fait qu'il cite beaucoup d'autres grands cinéastes comme Powell, Hitchcock, etc. Avec ce film-là, il commence à se citer lui-même et à réinvestir sa filmographie. Et notamment, il y a, tu parlais de la scène, la relecture du cuirassé Potemkin dans Les Incorruptibles. Là, il y a une scène méta de ça où le landau ne descend pas les escaliers mais descend l'ascenseur. Il y a deux grands moments de grâce dans le film. Il y a un très long plan séquence où une vieille femme médecin explique toute la problématique du personnage du film, et dans un très long plan séquence complètement virtuose, qui en plus, c'est une des seules longues scènes de dialogue du film, et qui
il l'avait déjà fait dans Le Bûcher des Vanités, l'ouverture.
Oui, bien sûr. Et l'autre scène typiquement de Palmesque, c'est effectivement ce climax de fin. Effectivement, on est dans une forme un peu nombriliste de fétichisme où il s'amuse avec lui-même, avec son propre rapport au cinéma, et je comprends que ça puisse saouler, quoi. Mais moi j'adore ça.
Moi c'est surtout en fait le fil du rasoir dont on parlait au début, c'est qu'il tombe en plein dedans en fait pour moi, c'est-à-dire que tous les effets sont quasiment grotesques en fait, c'est à chaque fois ça devient et John Lithgow en premier, c'est-à-dire le surjeu de l'acteur et tous ces plans en fisheye en fait sur sa tronche ou ce genre de choses en fait, tout à un moment donné tu te dis bon c'est hyper grossier, et bon c'est toute la finesse qui manque chez De Palma, alors qui est généralement là chez De Palma, qui me manque là à ce moment-là, quoi.
Alors on dit pour les passionnés ou pour les curieux, L'Esprit de Cain, c'est réédité chez Elephant Film, Phantom of the Paradise, c'est chez Carlotta. Je vous signale au passage que vous pouvez retrouver dans les crédits de cette émission un Nociné spécial Brian De Palma, puisqu'on a de la suite dans les idées.
On en a fait plein.
C'est ça. Merci à Jules, à la technique et à l'Antenne Paris pour l'accueil. Nociné.com, binge.audio, ça c'est pour toutes les infos et on vous dit à bientôt.
Salut, c'est Mehdi Maizi. Retrouvez nos fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans nos fun.